Alors, dans la presse, comment est-ce qu'on commence à parler des agressions sexuelles sur les enfants?
On commence à en parler. C'est assez là pour le coup, on peut dater un peu précisément autour des années 1880, ce qui correspond au développement d'une presse populaire commerciale, donc très très accessible à un public populaire, et au développement dans cette presse d'une rubrique, deux rubriques d'ailleurs, parce qu'elles sont multiples, consacrées aux faits divers. Ce qui est quand même, le fait divers étant la lecture, je ne dirais pas récréative, parce que c'est très excessif, me semble-t-il, mais une lecture facile. Donc, c'est au sein de ces rubriques que progressivement, on voit apparaître des mentions des derniers outrages, d'un monstre odieux qui s'est jeté sur une petite fille pour assouvir sur elle, etc. Donc, il faut quand même avoir déjà un peu repéré ce vocabulaire pour savoir que là, il est question d'un attentat à la pudeur ou d'un viol. Mais elle en parle quand même et il est certain que le lecteur des années 1880, 1890 comprend très bien.
Donc là, il s'agit d'agressions sexuelles sur les enfants sans qu'il y ait de meurtre.
Ah oui,
Parce qu'avant, on ne parlait que des meurtres.
alors oui, ça c'est vrai. La presse évoque un peu ces questions. Alors, la presse n'évoque que des affaires qui sont poursuivies en justice. Donc, la réalité du crime sexuel sur enfant, la réalité de l'agression, on n'en sait rien. On est complètement dans le brouillard. La presse a parlé un peu des crimes sexuels sur enfants, elle en a parlé un peu dans la première moitié du 19e siècle, mais c'est vrai, et essentiellement à l'occasion d'homicides. C'est-à-dire quand l'agression sexuelle elle-même s'accompagnait, était suivie le plus souvent, hein, d'un meurtre. Donc il y a eu quelques grandes affaires, tout à fait spectaculaires, mais très ponctuelles. Or, évidemment, l'agression sexuelle sur enfant accompagnée de l'homicide, c'est le très exceptionnel de la réalité.
Ça fait la une des journaux.
Ça fait la une des journaux, quelquefois. Je pense à une affaire en 1848, notamment, dans laquelle un prêtre, enfin un religieux, a été incriminé. Là, ça a fait la une des journaux pendant plusieurs semaines. Bon, mais ça tient aussi au statut de l'accusé qui a été condamné et qui a pourtant toujours clamé son innocence. Au tournant du siècle, ou plutôt après la Première Guerre mondiale, la presse cesse à peu près de parler de ce phénomène, ce qui est assez étrange et difficilement compréhensible.
Vous l'expliquez comment?
Je l'explique pas vraiment. Il y a des choses qu'on n'explique pas en histoire. Je le constate. Il y a eu un ensemble de facteurs qui ont convergé à la veille de la Grande Guerre, disons à partir des années 1880, qui a été tout le mouvement hygiéniste, qui s'est intéressé de très près à l'enfance, à la protection de l'enfance, un certain nombre de lois de protection de l'enfance qui ont été votées dans un contexte que d'autres que moi ont qualifié de cynisme démographique. Il faut pas oublier que dans les années 1880, on est quand même en plein esprit de revanche, et que on sait bien que pour battre l'ennemi d'outre-Rhin, il faudra avoir un peuple sain et solidement campé sur ses deux jambes. Et donc toutes les atteintes faites à l'enfance sont à ce moment-là traquées, etc. Bon. Et après la Première Guerre mondiale, on ne trouve plus ça dans la presse. On trouve une espèce de repli, d'ailleurs un peu frileux, chez certains médecins qui font remarquer qu'il y a quand même beaucoup de dénonciations frauduleuses, que finalement une théorie qui se développe autour des faux attentats. Voilà, les enfants utiliseraient la dénonciation pour faire plaisir à leurs parents, parce qu'ils ont un compte à régler avec le voisin, ou pour d'autres raisons. Et donc c'est plutôt la méfiance qui règne. La méfiance, elle est très sensible chez les médecins après la Première Guerre mondiale. Elle est sans doute aussi influencée par les écrits d'Ernest Dupré, qui est quand même l'auteur ou le concepteur même de cette notion qu'est la mythomanie, et la mythomanie infantile. Donc cette idée se répand que, au fond, les enfants sont des affabulateurs. Et
Ils
que,
mentent.
ils, alors, ils ne mentent pas. La mythomanie, c'est intéressant, c'est qu'elle ne dit pas les enfants mentent, elle dit les enfants croient dur comme fer à ce qu'ils racontent. Mais ça n'est pas vrai. C'est juste le produit d'une affabulation, etc. Bon.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.